Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. On a fait plus d'une fois dans ce podcast le constat de l'avancée rapide et semble-t-il inéluctable des nouveaux rois du capitalisme mondial, à savoir les tenants de l'économie numérique. On a beaucoup décrit leur modèle basé sur la dérégulation, leur poids, leur méthode et leur caractère de plus en plus visible en dehors des univers dématérialisés, dans nos villes, dans nos rues où se côtoient livreurs, chauffeurs VTC, deux roues, en libre-service, appartements, loués via des plateformes, etc., etc. On s'est souvent interrogé aussi sur l'apparente capacité des États à mettre de l'ordre dans tout ça, à réguler, à instaurer du cadre pour éviter que les pratiques très agressives de ces nouveaux acteurs ne viennent grignoter notre modèle social. Et récemment, on a commencé à voir s'organiser des réponses venues non pas des gouvernements centraux, mais des villes. Qu'il s'agisse de Londres, déterminée à interdire Uber, ou de Paris, qui fait état de son intention de contrôler les livraisons d'Amazon, de plus en plus de métropoles se mettent en première ligne face à ces plateformes. On a eu envie de savoir pourquoi, et ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à cette vaste interrogation, il nous faudra pas moins de deux chercheurs spécialistes des notions de ville et de politique, Patrick Le Gallès et Antoine Courmont, un duo qui, ça tombe bien, travaille ensemble puisqu'ils ont coordonné le livre collectif « Gouverner la ville numérique » paru récemment au PUF. J'ai commencé par soumettre notre question de la mise au premier plan des villes à Antoine Courmont.
Je pense qu'avant de répondre à votre question, il faut aussi un peu comprendre pourquoi les plateformes sont, quelles sont leurs caractéristiques qui les distinguent d'autres entreprises privées plus traditionnelles qui ont toujours participé au gouvernement urbain et pourquoi les plateformes seraient plus difficiles à gouverner et poseraient ces questions. Et en fait, c'est essentiellement dû à leur activité qui est de collecter et traiter de la donnée et de faire de l'intermédiation algorithmique, de l'appariement entre offre et demande sur différents marchés. Et donc, cet aspect numérique fait qu'en fait, elles ont besoin d'assez peu de présence territoriale pour déployer des services. Et donc, elles se déploient très rapidement sur un très grand nombre de territoires sans rentabilité immédiate puisqu'elles se font financer sur des levées de fonds. Et donc cette spécificité fait aussi qu'elles n'ont pas besoin d'entrer en contact avec les pouvoirs publics avant de déployer leurs services dans une large mesure puisqu'elles passent directement en proposant un service auprès des citoyens. Et donc il n'y a pas de forme de contractualisation comme on peut le voir sur des contrats classiques public-privé. Où l'acteur public, dans ces cas-là, est en capacité du coup de structurer le marché et de définir des orientations collective par l'activité, enfin, pour réguler l'activité économique. Donc ça, c'est des premiers points. Et l'autre point aussi, c'est qu'ils sont, enfin, sous plateforme, comme tout acteur un peu start-up, se développe sur des irritants du quotidien ou alors des failles de l'action publique qui sont souvent sur des failles où il n'y a pas forcément encore de cadre réglementaire, ce qui fait qu'elles ont le temps de se développer avant que la régulation arrive a posteriori, mais elle arrive quand même bien souvent. Et donc du coup, nous, notre position et ce qu'on essaye de défendre, c'est justement de dire, ce qu'on observe surtout, c'est que ces acteurs posent des problèmes et déstabilisent très fortement les pouvoirs publics, mais en même temps, les pouvoirs publics ont des capacités de régulation et arrivent à structurer ce marché. Ensuite, il y a plusieurs formes de régulation de ces acteurs. Il y a une première régulation aussi qui est le marché lui-même au-delà de l'acteur public. En fait, il y a aussi, faut pas oublier que les modèles économiques de pas mal de ces acteurs restent quand même assez fragiles. Uber, par exemple, est encore déficitaire. Son action a chuté de 25% depuis son introduction en bourse. Et surtout, en fait, il réalise près de 25% de son chiffre d'affaires dans seulement 5 villes sur 850 dans lesquelles il est présent dans le monde. Et ces 5 villes sont Los Angeles, San Francisco, New York, Rio et Londres. Et quand une ville comme Londres, du coup, interdit Uber, du coup, ça fragilise énormément le modèle économique et la position de l'entreprise.
Est-ce que finalement, une des raisons qui font que l'action publique se passe plus au niveau des villes que des États, c'est aussi la rapidité de la prise de décision? On dit souvent que l'État met du temps à prendre exactement la mesure des modifications à apporter pour poser un cadre, justement, pour on parlait de cette régulation tout à l'heure. Est-ce que, comme l'action publique est plus rapide au niveau municipal, c'est aussi pour ça que ce sont les villes qui sont en première ligne?
Pas forcément, enfin en tout cas les villes font avec ce qu'elles peuvent faire et en tout cas en France elles sont leurs compétences sont déterminées par très largement dans un grand nombre de domaines par l'État central qui leur dote d'outils, de moyens de régulation ou non et aujourd'hui en fait elles sont quand même dépendantes d'un certain nombre de lois qui doivent être passées à l'échelle nationale. Ce qu'il faut comprendre pour la régulation, c'est qu'elle est vraiment multiniveau. Et en particulier en France, où là, sur, je ne sais pas si vous prenez, pour continuer sur l'exemple du free floating, il y avait une espèce de vide juridique sur ces engins de déplacement qui pouvaient les réguler, comment, avec quels outils, etc. Et ce vide juridique a été comblé par la loi LOM qui vient d'être approuvée là, au Parlement et qui, du coup, dote, du coup, qui détermine très clairement que les municipalités et les villes sont en capacité de réguler ces activités, de faire soit des appels d'offres, soit de limiter le nombre d'opérateurs, d'avoir accès aussi aux données de ces opérateurs, qui est un des gros points centraux. Mais en l'absence de ce cadre juridique, en fait, c'était beaucoup plus difficile pour les villes de pouvoir les réguler.
Et en termes d'interlocuteurs, de dialogue, là encore, entre les plateformes et les municipalités et les villes, est-ce que là aussi, il y a de la médiation qui existe ou est-ce que, justement, ces grandes plateformes ont plutôt tendance à échanger avec les pouvoirs nationaux, avec les pouvoirs publics à niveau de l'État? Ou est-ce que là aussi des dialogues se font justement pour que ce ne soit pas les villes qui les s'abordent ?
En fait, de manière générale, les plateformes sont sur un modèle de croissance massive à grande échelle et sont pas structurées initialement pour dialoguer avec les villes, en tout cas sur tous les territoires où ils s'implantent. Elles sont un nombre quand même relativement limité d'employés compte tenu de leur présence territoriale et elles n'ont pas forcément toutes développé des stratégies de forme de lobbying ou de dialogue avec les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou locaux. Certaines le font de plus en plus. Typiquement, Uber ou Airbnb ont des stratégies de lobbying assez poussées, traditionnelles et assez novatrices. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et après, il y a d'autres plateformes. J'ai beaucoup étudié la plateforme Waze, donc le calculateur d'itinéraire, qui provoque des reports de trafic dans des quartiers résidentiels, dans des zones périurbaines, posant un certain nombre de questions avec les pouvoirs publics. Et en fait, typiquement, cette plateforme qui doit avoir près de 130 millions d'utilisateurs dans le monde, avec la France avec 12 à 13 millions d'utilisateurs, donc ce qui est son troisième marché mondial, ce qui est assez conséquent. Et en France, ils doivent être 25 salariés qui sont essentiellement des salariés sur des fonctions marketing, de vente de la publicité, et du coup qui n'ont pas dans leur fiche de poste l'aspect discussion avec les collectivités et qui n'ont pas non plus aucune formation en urbanisme, aucune maîtrise forcément des enjeux urbains. Et donc les dialogues sont souvent assez difficiles, enfin, en tout cas, moi, on m'a fait rapporter des échanges entre villes et ces acteurs d'économie numérique où c'est vraiment deux mondes sociaux différents qui n'ont pas la même culture, pas le même langage et qui ont vraiment du mal à se comprendre quand elles se rencontrent. Donc là, c'est pour le cas de Waze, c'est pas forcément, typiquement Uber ou Airbnb pour les plus connus, sont mieux structurés en capacité d'interlocuteurs et en affaires publiques et donc du coup, les dialogues peuvent exister en sachant que ça dépend aussi de la position de la municipalité, typiquement entre Airbnb et la ville de Paris. Il y avait eu des dialogues initialement aux alentours de 2014-2015 pour la collecte de la taxe de séjour. Il y avait même eu un accord qui avait été médiatisé où Airbnb collecte la taxe de séjour et la reverse à la ville de Paris. Donc des dialogues. Et en même temps, une fois que c'est plutôt l'adjoint au logement qui s'est mobilisé de la question avec une posture beaucoup plus ferme en termes de régulation, le dialogue a été beaucoup plus difficile et je crois que là, il n'existe plus vraiment entre la ville et la plateforme.
Vous parliez de techniques, de modes de lobbying assez innovants, c'est-à-dire ?
Ces plateformes s'insèrent dans les failles de l'action publique. Elles ont été l'objet d'un nombre très important de procès un peu partout dans le monde. Et en fait, elles ont anticipé ces procès dans leur modèle d'affaires. Et c'est leur modèle de développement vise à que la législation leur soit la plus favorable. Donc pour ça, elles ont des techniques de lobbying traditionnelles et elles ont aussi une capacité à mobiliser leurs utilisateurs qui est assez importante. Où elles, notamment Airbnb, a créé des home sharing clubs dans plusieurs municipalités qui visent à regrouper les hôtes qui sont présents sur le territoire, à leur fournir des argumentaires à opposer En cas de régulation moins favorable, il les mobilise aussi pour faire du porte-à-porte, etc.
Vous parliez des failles dans lesquelles justement s'insèrent ces plateformes pour se développer. Est-ce que, si on prend le cas précis de la France, et on en revient à cette histoire du rôle des villes dans tout cela, est-ce que l'une des failles qu'elles exploitent finalement ne serait pas la difficulté de la France à décentraliser le pouvoir et à faire descendre les niveaux de prise de décision et à garder un peu tout, on va dire, concentré au niveau national?
Bon, en tout cas, c'est des choix qui sont faits en France. Après, je pense que les difficultés de régulation, même dans des pays qui sont plus décentralisés, existent également.
Ouais, la question se pose aussi.
La question se pose de la même façon enfin, on voit très bien aux États-Unis, par exemple, où les villes ont beaucoup plus de pouvoir et subissent également, dans une large mesure, que ce soit les services de VTC ou Airbnb. Mais ça, c'est dans un premier temps. Après, il y a quand même une phase d'apprentissage de la part des villes et une capacité, du coup, à influer plus en amont possible. Typiquement, ça s'est vu, je pense que le cas de Los Angeles est assez intéressant sur la régulation des opérateurs de free-floating, où pour éviter justement les mésaventures qu'ils ont pu avoir avec Lyft ou Uber, avant que les opérateurs de trottinettes et de vélos électriques en free-floating se développent, ils leur ont imposé en fait une autorisation municipale et aussi la transmission en temps réel de la donnée de localisation de toutes les trottinettes, de tous les véhicules, pour pouvoir déjà avoir connaissance du phénomène, savoir dans quelle mesure il était plutôt un apport ou pas pour la politique de mobilité, et aussi pouvoir signaler le cas où il y a des trottinettes qui sont abandonnées ou qui sont mal garées, etc., et imposer à l'entreprise d'aller les retirer. Donc ça, c'est typiquement en fait une forme d'apprentissage des villes par rapport aux expériences passées. Il y a quand même des régulations qui se mettent en place.
Il y a un enjeu au-delà de tout ce qu'on a évoqué, il y a un autre enjeu qui est très important, c'est la capacité d'accès aux données.
Oui, l'accès aux données qui est crucial déjà pour prendre connaissance du phénomène. En fait, en l'absence de statistiques sur le nombre de logements sur Airbnb à Paris, en l'absence du nombre de Uber, du nombre de kilomètres parcourus, etc., très difficile de savoir si c'est un épiphénomène ou si ça a des conséquences majeures, et de le mettre à l'agenda et ensuite de comprendre comment le réguler, donc d'avoir du connaissance sur qui sont les loueurs, leur stratégie, etc. Et en fait, toutes ces données, seules les plateformes les ont. Donc les villes ont mis en place un ensemble de stratégies pour essayer d'avoir une meilleure connaissance de ces phénomènes, d'une part, et ensuite sur la capacité à pouvoir réguler ces activités. Une fois qu'on met en œuvre la régulation, il faut aussi pouvoir identifier les loueurs qui ont une activité frauduleuse pour ensuite pouvoir les sanctionner. Là encore, c'est très difficile à effectuer en l'absence d'informations précises sur les loueurs.
Comment elles parviennent à les obtenir, ces données? Parce qu'on sait que la data, la donnée, c'est un peu le pétrole de ces entreprises, de ces plateformes. Comment est-ce qu'elles acceptent ou pas de laisser les municipalités, les pouvoirs publics accéder à ça?
C'est des vraies batailles, hein, avec des vrais rapports de force qui se jouent. Il y a aussi des législations quand même qui tendent maintenant à imposer à ces acteurs la transmission de données. Donc c'est le cas par exemple sur la loi Elan qui est en France, qui impose la transmission sur Airbnb et autres plateformes de location de véhicules touristiques, la transmission annuelle des données et le nombre de nuitées qui a été réservé pour chaque loueur, chaque logement, aux collectivités, avec là encore, du coup, le décret est sorti en début de mois et donc le décret gouvernemental qui fixe un peu exactement ce qu'il y aura dans le jeu de données et qui convient pas tout à fait à la ville de Paris, puisque en fait il n'indique pas le lien vers l'annonce, qui rend plus compliqué derrière le traitement du dossier, etc., l'identification. Donc il y a ces enjeux-là. Il y a après en fait un certain nombre de groupes sociaux et d'organisations se sont mobilisés, ont fait du scrapping de données sur les plateformes de type Airbnb.
Petite parenthèse pour préciser, le scrapping ou web scrapping, c'est le fait d'extraire des données massivement sur un site en utilisant un programme, une application ou un autre site. Voilà.
De collectivités ont aussi suivi, utilisent ce genre de technique également pour avoir connaissance de cela, avec un enjeu là-dessus sur la légalité de la question du scrapping, puisque ce sont des données propriétaires et donc du coup il n'y a pas d'utilisation en tant que telle derrière de ces données dans la constitution des dossiers pour les sanctions, mais du coup c'est une technique alternative pour essayer d'avoir accès à l'information.
Pour poursuivre cette réflexion, je suis donc allé faire un tour à l'école urbaine de Sciences Po pour discuter avec Patrick Le Gallès et lui demander à lui aussi comment il percevait
percevez cette prise de pouvoir ou cette volonté de prise de pouvoir de la part des grandes villes ?
De manière générale, sur tout ce qui est politique publique, action publique, régulation, les villes jouent un rôle de plus en plus important, indépendamment des grandes plateformes. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, 75% de l'investissement public en France est fait par les autorités locales, essentiellement les villes. On est à 60-65% d'Europe, qu'on voit des processus de décentralisation un peu partout dans le monde. Il y a des exceptions, comme les Britanniques. Mais de manière générale, ce qu'on arrive à montrer dans nos travaux, c'est qu'à l'échelle urbaine, on a de plus en plus de gens, c'est là que se fait le développement économique beaucoup, et on a de plus en plus de capacités, de ressources, d'expertise, de budget pour organiser qui un transport, qui une politique publique, qui intervenir dans l'éducation. Donc, de façon générale, une partie des villes dans le monde joue plutôt un rôle de plus en plus important dans l'action publique, dans la gouvernance et dans la régulation. Première chose. Deuxième chose, dans beaucoup d'endroits, dont l'Europe, on a de toute façon, les États qui continuent à jouer un rôle. Donc, ils ne sont pas en train de disparaître du tout. Donc, l'histoire, ce n'est pas les villes qui remplacent les États, du tout. C'est les États se spécialisent sur certaines choses, se recomposent, et puis les villes essaient de monter en puissance, et on a de plus en plus d'activités. Conséquence de ça, c'est qu'on a de plus en plus de vifs débats, parfois de conflits, entre les priorités des villes qui considèrent, ou des métropoles, qui considèrent que leurs priorités ne doivent pas être simplement ce que font les États, et les États continuent à avoir des élites qui ont leurs propres priorités. Donc partout, par exemple de l'Europe, on a de plus en plus de tensions sur des questions de gouvernance et de politique publique entre les priorités des États et les priorités des villes. D'accord ? Donc il y a une espèce de différenciation entre les deux et d'interdépendance qui évolue. C'est-à-dire que la hiérarchie entre l'État et les grandes villes est beaucoup moins forte. Et les États, en général, sont plus dépendants des métropoles parce que la production économique, l'accumulation des élites, tout un ensemble de phénomènes sont beaucoup plus concentrés dans les villes qu'ailleurs. Faut pas exagérer, c'est pas si massif que ça. Il y a d'autres endroits, mais enfin, quand même, c'est dans ces grandes villes que se passent beaucoup de choses. Donc, lorsqu'on a un choc extérieur, comme les GAFA, ou l'arrivée de forces qui déstabilisent extrêmement fortement l'action publique, on va avoir des tensions comme on a dans plein d'autres domaines. Mais c'est encore plus vrai parce que c'est des nouveaux domaines. Donc on ne sait pas trop qui peut s'en occuper et qui peut le faire. Et on peut avoir des contradictions dans les priorités. Donc là, moi, je réponds précisément sur les choses que vous évoquez. Par exemple, dans le cas d'Uber ou dans le cas d'Airbnb ou dans le cas d'Amazon, la première chose qu'il faut souligner, c'est que c'est très déstabilisant pour l'action publique, qui n'est pas habituée à gérer, ou les trottinettes Bird qui arrivent. Donc il y a un aspect de déstabilisation. Un certain nombre de gens en déduisent qu'il n'y a pas de capacité de régulation et que les États sont délégitimés, déstabilisés, qu'on ne sait plus quoi faire. Je pense que ça, c'est une erreur majeure. Historiquement, quand on a vu des grandes innovations technologiques, par exemple au 19e siècle, pour les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, il y a eu un moment où les gouvernements étaient déstabilisés. L'histoire des questions de gouvernance et de régulation, c'est qu'on a beaucoup d'innovations, et puis assez souvent, à un moment donné, les gouvernements sont plus lents, et c'est sans doute une bonne chose. Ils n'ont pas réagi à la virgule près. Ils mettent un peu de temps et ils apprennent les règles du jeu. Ils ont quelques échecs. Et puis petit à petit, soit en négociant avec ces firmes, soit en les contraignant, ils arrivent à définir des règles du jeu. Par exemple, dans le cas d'Airbnb, une des choses qui crée des tensions dans qui doit réguler, qui doit contrôler, c'est le fait qu'une partie des élites d'État trouve que fondamentalement, c'est quand même extrêmement important de mettre la priorité sur le développement économique. Et donc Airbnb, c'est un facteur pour attirer énormément davantage de touristes, ce qui est bon pour la compétitivité, en tout cas qui est bon pour le développement économique et pour la richesse. Donc du point de vue des élites d'État, sur certains, et sur Amazon, il y a un peu la même idée aussi. Donc sur certaines de ces nouvelles grandes entreprises qui remettent en cause les règles du jeu sur un certain nombre de domaines, il y a une partie des élites d'État qui sont en fait assez favorables, même si ça déstabilise un peu le système existant, parce que ça produit de l'activité économique. À l'inverse, très souvent, les élites des villes, elles sont beaucoup plus proches de... Elles cherchent à améliorer la qualité de vie des habitants, donc le développement économique est une priorité, mais il y a aussi ce que Bourdieu appelait la main gauche de l'État, mais il y a aussi la volonté de maintenir l'État-providence et puis de maintenir une qualité de vie pour les habitants et un marché du logement qui puisse fonctionner. Et un contrôle, et comme partout dans les grandes villes dans le monde, notamment dans les grandes villes européennes, mais pas seulement, on a des problèmes énormes de production de logements, de loger les catégories modestes et plus pauvres, ou d'augmentation phénoménale des prix, mais c'est vrai autant à Hong Kong qu'à Pékin, qu'à Los Angeles, qu'à San Francisco, qu'à Paris, qu'à Londres. Airbnb ajoute évidemment une difficulté très très forte sur cette question-là. Donc, dans beaucoup de villes, il y a une mobilisation extrêmement forte d'une partie des élites plutôt plus proche des mouvements du logement, donc plutôt les élites de gauche, plutôt écologistes, dans les villes dont j'ai parlé, ou Berlin, et qui, contre l'avis de l'État, qui est très très mesuré, essaye progressivement d'apporter des éléments de régulation et de contrôle et de taxation. Dans le cas d'Airbnb, parce que je pense qu'il faut séparer un peu les cas, dans le cas d'Airbnb, ce que montrent mes collègues que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'entreprise elle-même a des pratiques de brigands, y compris pour échapper à la taxation, pour influencer les gens, pour qu'ils ne répondent pas aux enquêtes. C'est vraiment des gens qui se comportent de manière extrêmement dure. Et sans une très très forte coercition, on n'arrive à rien. Ils évitent, ils ne respectent pas les règles du jeu, ils continuent à faire des choses. Donc là-dessus, au nom de tout un ensemble de choses, c'est quand même une entreprise qui est très très dure dans ses modes de fonctionnement et qui ne respecte pas ni les lois, ni les logiques de taxation, ni la question qui peuvent se poser et qui ne sont pas tellement dans une logique de négociation avec les autorités locales. Donc là, ça a exactement le sens que vous évoquez. On est exactement dans une situation où, pour les élites des villes, la question des élites urbaines, la question du logement, elle est fondamentale. C'est une question fondamentale qui, aujourd'hui, est encore plus importante à cause des problèmes de prix et de disponibilité d'offres de logement dans beaucoup de villes et dans lesquelles Airbnb provoque a des effets extrêmement importants pour retirer un ensemble de logements. Et contrairement à ce qu'il raconte, on sait qu'aujourd'hui, une partie, évidemment, des offres Airbnb sont contrôlées par des gens qui font ça à temps complet, soit des agences, soit des gens qui achètent des biens uniquement pour ce logique-là, et qui sont à temps complet sur le marché, qui leur permet d'avoir un revenu supplémentaire, et qui peuvent éventuellement échapper à la taxation. Donc, il y a vraiment un souci. Hein, c'est pas le... Donc, de ce point de vue-là, dans beaucoup de pays, les élites des États ont trouvé que c'est un sujet mineur. Par contre, les élites urbaines, et qui sont responsables devant leurs citoyens, ont pris ça à cœur. Et donc, il y a tout un ensemble de réactions très très fortes, que ce soit Berlin, qui est très en pointe, Paris, qui essaye, parfois contre l'État, et qui demande beaucoup plus d'intervention de l'État pour avoir davantage de moyens et de ressources pour pouvoir réguler, pour contrôler l'information. Ou Barcelone, qui a pris aussi le leadership sur ces questions-là et qui essaye de faire des choses. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit non seulement des élites urbaines qui jouent un rôle de plus en plus important, qui mettent de l'expertise, qui essayent de mettre des ressources pour faire du contrôle, ce qui est compliqué pour elles, ça demande des ressources importantes, mais elles s'associent à un groupe des villes qui apprennent à négocier avec Airbnb, qui a toujours une stratégie de diviser pour régner. Donc, personne ne sait l'accord qu'a Airbnb avec chacune des villes. Donc, il y a un réseau des villes européennes, et maintenant mondiales, qui essaye de partager les accords qui sont tous différenciés de ville en ville, et qui essaye et d'influencer la législation nationale, et de se mettre d'accord sur des pratiques. Donc, il ne s'agit pas d'interdire Airbnb, il s'agit de réguler, d'avoir un nombre de nuitées maximum, et de contrôler, d'avoir l'information sur qui loue, qui reçoit, et de pouvoir taxer correctement ces activités. Donc là, ça va exactement dans le sens que vous évoquez. D'abord, il ne faut pas oublier que les États continuent à jouer un rôle important sur les questions de définition des règles du jeu et de la coercition, et la capacité à taxer, mais les élites urbaines sont les moyens de le faire, et de plus en plus sont actives, mettent des ressources, créent des systèmes d'information, négocient très activement, et créent des réseaux de villes, soit ça, soit elles influencent les politiques nationales, et on a de plus en plus de lois pour Paris, pour Helsinki, pour Londres, qui leur donnent des moyens de négocier et d'affirmer des choses. La difficulté, c'est qu'on a affaire à des très grosses entreprises qui ont des moyens absolument considérables. Lorsqu'il y a eu, par exemple, un référendum à San Francisco, Uber avait été extrêmement actif, avait dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir gagner le référendum. Et donc, ces entreprises sont extrêmement actives dans la politique locale. Donc, c'est tout à fait normal aussi que les élites urbaines réagissent vivement, parce qu'elles ont affaire à des entreprises qui ont le droit de le faire, sont très actives pour influencer les choix qui vont être faits et pour que le cadre de régulation favorise leurs propres intérêts. Hein. Donc Uber ou Airbnb sont des entreprises qui n'ont aucun problème pour investir très très fortement dans les réseaux sociaux ou dans des politiques de communication ou de mobiliser leur communauté pour jouer. Donc elles jouent le rôle normal d'un groupe d'intérêt, et donc il est absolument normal que les élites urbaines jouent un rôle très actif pour négocier, y compris parfois durement et parfois en mobilisant des moyens juridiques, parfois la taxation, parfois autre chose, pour pouvoir se mettre d'accord sur comment on vit ensemble dans la ville et quel va être le rôle de ces choses. Il faut bien comprendre que le modèle des plateformes, ça permet plein d'innovations et plein de choses intéressantes, mais c'est un modèle qui fondamentalement est assez agressif. C'est un modèle où on cherche à devenir le dominant et à éliminer les concurrents. Donc c'est un modèle qui vise à créer un monopole. Hein, la logique de ces plateformes, de ce capitalisme plateforme, c'est un modèle qui vise, qui est très très innovante, qui permet plein d'innovations et rend des services, mais qui vise à éliminer les concurrents et à passer en force et à faire bouger les législations. Hein, donc c'est pour ça que c'est des domaines extrêmement dynamiques. Donc là, ce qui va dans votre sens complètement, c'est que de plus en plus de villes dans le monde réfléchissent aux manières de combiner, de garder des formes d'innovation, et les trottinettes sont un bon exemple, avec l'évolution de cadres de régulation, de gouvernance, qui leur permettent de contrôler ce qui se passe, parfois d'avoir l'information, parfois de taxer, et de respecter, au cas de respecter leurs priorités politiques. Pour les élites des grandes métropoles, elles ont appris, les élus et les techniciens et les gens et les groupes d'intérêt qui sont autour, que le conflit politique et la dynamique de faire évoluer les cadres de la régulation et les formes de gouvernance urbaine, c'est un domaine dans lequel elles doivent s'habituer à changer, à s'adapter, à devenir plus agiles. Hein. Donc le basculement qu'on est en train de voir, c'est qu'elles ont appris qu'un jour elles peuvent voir débarquer Amazon, le lendemain ça va être les trottinettes, et après-demain ce sera autre chose qui sera lié à l'intelligence artificielle. Donc dans beaucoup de villes mondiales, ce qu'on voit beaucoup, et c'est très clair en Europe, c'est elles sont en train de s'étoffer et de se réorganiser pour être capables de répondre à ces défis. Elles savent tout de suite qu'il faut travailler avec l'État et influencer l'État pour avoir des capacités à réagir, que tout de suite, il faut laisser des formes d'innovation se développer et pas réagir, interdire tout de suite, parce que ce serait très dommage. Donc, il y a un apprentissage qui est en train de se faire. Et là-dessus, c'est effectivement les villes qui sont en pointe. Hein. Et on pourrait presque conclure en disant que c'est sur un certain nombre de ces sujets, vous voyez, on pourrait, si j'élargisse un peu, on pourrait dire que si on réfléchit sur les questions qui nous intéressent tout petit peu de crise climatique, on peut quand même faire contraster les hésitations de tout un ensemble d'États et leur faible capacité à mettre en œuvre les politiques qui vont dans ce sens-là et à respecter les engagements qu'ils ont pris à la COP de Paris ou à d'autres COP. À l'inverse, on voit que, même si ce n'est pas sur les mêmes politiques, et que c'est plus facile, et que ce n'est pas forcément la même taille d'enjeu, une partie des élites urbaines est aujourd'hui vraiment en pointe hein, pour travailler très très fortement sur les questions de mobilité, sur les questions d'énergie dans les bâtiments, sur les questions de l'agriculture et des modes alternatifs urbains, sur les questions d'éducation des populations, sur les questions du tri, sur les questions de gestion de l'eau. Un peu partout, c'est vraiment les villes qui sont très en pointe. Donc on a quand même un décalage qui s'accentue, où les élites urbaines sont vraiment l'avant-garde dans plein de continents et particulièrement en Europe pour essayer de faire changer les choses et de faire changer les politiques.
Et pour un exemple concret de ce que dans les villes la question de l'arrivée massive d'opérateurs adeptes de la dérégulation peut vouloir dire, je vous invite à réécouter l'épisode que nous avions consacré il y a quelques mois aux trottinettes en libre-service avec ce titre « Faut-il brûler les trottinettes électriques ?» Merci à Antoine Courmont et Patrick Le Gallès pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.